Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. Actuellement, il est minuit 20 et je sais pas pour. On est lundi, hein. On est lundi. Lundi, pour ceux qui écoutent beaucoup le podcast, vous savez que c'est le jour où on sort les épisodes. En général, lundi à 20h. Et Soul for Soul, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est un podcast où on parle de religion, de spiritualité et de la vie de façon plus générale. Et je sors un épisode chaque 2 semaines en temps normal. Et là, en fait, avec le carême, j'étais tellement à fond dans. Je sais pas si je peux dire la propagande Instagram, mais j'étais vraiment à fond sur le fait de mettre en avant le fait qu'on est pendant le temps de carême sur Instagram. Et j'ai limite oublié de faire des épisodes dessus. Après, mon dernier épisode date d'il y a vraiment 2 semaines, du coup, je suis pas en retard. Mais bon. En plus, j'avais eu des problèmes avec cet épisode. Dans lequel j'explique en fait comment est-ce que je suis passée d'une foi transmise, c'est-à-dire la foi que mes parents m'ont donnée, enfin, m'ont enseignée. En fait, non, c'est pas les bons termes, j'arrive pas à parler, mais c'est un peu l'idée que mes parents, ils m'ont parlé de Jésus, et je le connaissais comme un personnage lointain, et un jour est arrivé, en fait, finalement, c'est devenu une décision que j'ai prise, et j'ai décidé que. Je vais vivre ma foi parce que je le veux, parce que ça m'intéresse, parce que je crois, etc. Et en fait, il y a une différence entre croire que Dieu existe et croire en Dieu. Et du coup, ça, c'est un processus qui prend du temps. Et moi, du coup, j'ai expliqué comment est-ce que mon choix s'est fait. Parce que dans l'épisode d'avant, j'ai parlé de la religion, un peu du but de la religion, pourquoi elle est là, etc. Donc ça faisait une bonne transition. Et si vous nous suivez sur Instagram, ce que je vous invite vivement à faire parce qu'on est super sympa là-bas, on a vraiment parlé du fait qu'on est dans le temps de carême, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour se rapprocher de notre essentiel qui est Dieu. Le truc, c'est qu'en général, on est tellement pris dans notre quotidien qu'on met Dieu vraiment en second plan. C'est-à-dire, on va se dire que ouais, on va prier, on va lire sa Bible, on va faire un truc, en tout cas en rapport avec Dieu, qu'on aura fini de faire tout ce qu'on a à faire et qu'on n'est pas trop fatigué. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, tu vas vraiment passer. Tu vois, en fait, tu vas passer ta vie comme une personne qui connaît pas Dieu et c'est le soir, genre à 23h avant de te coucher, tu vas être en mode ah, mais ouais, je dois faire ma prière. Tu vois? Et ça, c'est vraiment. Le temps de carême, c'est un temps qui est là pour nous rappeler que. La vie actuelle, elle n'est pas éternelle. On est en pèlerinage en fait sur la terre et il faut se préparer pour les choses éternelles en fait, pour les choses éternelles donc qui sont avec Dieu. Il faut chercher à avoir une vraie relation avec Dieu. Il faut prendre tous ces temps où on fait finalement rien pour se reconcentrer sur Dieu. C'est-à-dire que si toi tu sais que tu es une personne qui passe énormément de TikTok, de temps sur TikTok, t'es pas productif en fait, tu fais objectivement tu fais rien et ces temps-là en fait faut que tu les doses et que tu puisses prendre ces temps pour prier et te rapprocher de Dieu, c'est vraiment ça. Donc tu fais des efforts sur les choses qui t'éloignent de Dieu et tu pries plus. C'est un peu la même vibe avec le jeûne de nourriture, c'est-à-dire que si tu fais un jeûne de nourriture mais que tu pries pas plus, bah ou que tu pries pas tout simplement, bah tu fais juste un régime. Faut que ton effort en fait il ait un sens. Faut que ton effort il te rapproche vraiment de Dieu. Parce que si tu te rapproches pas de Dieu, t'as fait ça pour rien en fait. T'as vraiment fait ça pour rien. Et du coup, le dimanche passé à la messe, le texte de l'évangile qui a vraiment été mis en avant, c'est celui où Jésus se fait tenter. Parce que je pense qu'on connaît. On connaît tous, c'est trop cliché. Mais dans les évangiles, il y a un texte où on t'explique en fait Jésus, après s'être fait baptiser, a été conduit par l'Esprit dans le désert où le diable l'a tenté 3 fois. Je ne vais pas vous refaire toutes les explications que j'ai faites par rapport aux vidéos que j'ai postées parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais il y a vraiment un point que j'ai relevé. Et que je voulais partager avec vous, et c'est pour ça que je vais faire cet épisode que j'ai pas vraiment préparé, alors que d'habitude je prends vraiment le temps de préparer les épisodes et tout, mais là on sort un peu en mode freestyle, si je peux dire ça comme ça. Il faut sachez que le diable a tenté Jésus 3 fois,
Et en fait, moi, j'ai fait 4 vidéos que j'ai postées sur une semaine sur le compte Instagram. Et du coup, c'était assez édifiant pour moi parce que j'ai fait 4 vidéos en parlant assez sérieusement de sujets assez importants. Les vidéos excédaient pas 1 minute 50. Ouais. Et voir que je pouvais dire autant de choses sur genre 10 versets du chapitre 4 de Matthieu, ça m'a vraiment. Ça m'a pas étonnée parce que moi j'aime faire de l'analyse de versets, j'aime creuser dans la Bible et tout, du coup ça ne m'a pas étonnée. Mais je n'avais jamais pris le texte comme ça et je n'avais jamais vu qu'on pouvait sortir autant de choses. Lorsque le diable va tenter Jésus 3 fois, la première fois il va lui demander de transformer je sais plus trop quoi en pain. Oui, moi qui ai fait une semaine à parler de ça et je ne peux pas vous dire le verset exact, pardonnez-moi. Mais ce sera sur la question des pains, alors que dans les évangiles, Jésus lui-même a dit qu'il était le pain de vie. Je vous écrirai toutes les refs bibliques en description. Donc Jésus a dit qu'il était le vrai pain de vie. Ensuite, il va montrer le plein de, enfin le diable va montrer des royaumes à Jésus. Et en fait, il va essayer en gros de le tenter sur le pouvoir de la domination, alors que Jésus est Seigneur. Et bon, on a le dernier, la dernière tentation où le diable va être en mode ouais, saute, les anges vont venir te secourir, blablabla, ce qui est au passage le psaume 90. Et comme je l'ai dit, ça signifie que le diable peut essayer de vous tenter à partir de la parole de Dieu, donc il faut rester vigilant. Mais en gros, tout ça, le diable, en fait, toutes ces tentations, si on doit résumer l'idée de ces tentations, c'est qu'il vient trouver Jésus et il dit à Jésus, en gros, si tu es Jésus, prouve-le. C'est-à-dire, de façon très caricaturée. Mais en fait, c'est même pas de façon caricaturée, c'est un fait. C'est-à-dire, concrètement, ce qui se passe, c'est que le diable, il vient trouver Jésus et il demande à Jésus de lui prouver qu'il est Jésus. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, l'épisode des tentations, c'est à la suite des 40 jours et 40 nuits de jeûne de Jésus dans le désert. Petit parallèle même d'ailleurs avec le pourquoi du carême. Si vous voulez, on fera un épisode pour expliquer plus en détail pourquoi est-ce qu'on fait un carême. Mais, donc c'est après ces 40 jours et 40 nuits où Jésus a jeûné. Mais avant, juste avant ces 40 jours et 40 nuits, il y a le baptême de Jésus. Et lors du baptême de Jésus, bon, c'est un événement assez extraordinaire. Il y a quand même le ciel qui s'est ouvert, on voit une colombe. Et il y a une voix qui se fait entendre, et c'est la voix de Dieu qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma confiance. Et je trouve que, c'est-à-dire, Dieu a dit en fait qui est Jésus. Je vois, Dieu a dit qui est Jésus, Dieu a donné l'identité de Jésus, et le diable il va venir essayer, bon il n'a pas essayé, il a carrément fait, mais le diable il va venir tenter Jésus pour remettre en question sa nature profonde, remettre en question le qui il est. Parce que quelque part, si on te demande de prouver qui tu es et que tu rentres dans le jeu, c'est que t'es pas sûr de savoir qui tu es. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que à partir de ce texte, je me suis rendu compte que. Parce que en plus, je crois qu'il y avait. Je redirai probablement en description quand j'aurai fini de vérifier. Mais je crois qu'il y avait vraiment un petit verset en mode. Le diable a épuisé tous ses modes de tentation et du coup il est parti après cette troisième tentation. Mais ce qui est sûr, c'est que le diable, il va toujours essayer de vous tenter sur votre nature profonde. Il va essayer de vous faire remettre en question qui vous êtes. Et le diable, en fait, il sait que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité en Christ, si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne pourras pas porter de fruits. Et si tu ne portes pas de fruits, le diable, lui, il est content. Le diable, en fait, il aime voir que on est stérile, qu'on n'avance pas, qu'on ne porte pas de fruits et qu'on est à côté de ce que Dieu a prévu pour nous parce qu'on ne sait pas qui on est, en gros. Et du coup, il va toujours vouloir venir nous tenter dessus. Et je me suis rendu compte que, mais ouais, c'est une dinguerie. Genre, parce qu'effectivement, c'est-à-dire, t'es là, si t'es dans des moments où tout va bien. Limite, tu penses pas à Dieu. Dans les moments plus difficiles on va dire tout va mal, pour essayer de, on va dire tout va mal. Tu vas penser à Dieu, mais tu vas commencer à avoir des pensées du style, ouais, genre les gens ils sont pas, genre regarde telle personne, elle a pas Dieu dans sa vie, mais ça se passe bien pour elle. Peut-être que ça aurait été plus facile si tu n'avais pas choisi Dieu, sachant qu'en plus la souffrance est quand même bien au cœur de la foi chrétienne, hein. Donc, mais il n'y a pas d'amour sans souffrance, voilà. Mais quoi qu'il en soit, le diable, il veut vraiment qu'on soit stérile, il veut pas qu'on porte de fruits, et il veut du coup en permanence nous pousser à remettre en question qui on est, ce que l'on est, où l'on va, bref, parce qu'il se dit, si tu es une personne qui passe son temps à douter, tu pourras rien faire, et c'est totalement vrai. Quand tu es face à un QCM à l'école ou à la fa oh, la fac, si tu as un QCM en examen à la fac et que tu sais que le QCM il a un point négatif et tu doutes sur la réponse, a priori tu vas cocher aucune réponse, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, si j'ai un QCM à point négatif, c'est-à-dire je mets une mauvaise réponse, ça m'enlève un point ou deux. Et genre, je sais pas c'est quoi la réponse, je doute de moi, je doute de mes connaissances, je ne vais rien cocher du tout. Je vais rien faire. Parce que je vais préférer ne rien faire plutôt que perdre, enfin prendre le risque de cocher un truc et que ça m'enlève un point. Après, ça c'est moi, mais j'ai tendance à généraliser parce que j'ai tendance à penser qu'il y aura plus de personnes dans ce cas-là que de personnes dans le cas de on va cocher un truc et puis Inch'Allah ça va passer. Et du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est que si tu sais pas qui tu es, tu peux pas porter de fruits. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à me demander est-ce qu'il ne fallait pas qu'on fasse un épisode sur notre identité en Christ, sur qui on est vraiment, ou qu'est-ce qu'on est censé être, où est-ce qu'on s'en va, pas pourquoi on est là, mais en tout cas qui on est. Parce que en général, je pense même vous le verrez dans la vie de tous les jours, les personnes qui savent qui elles sont réalisent de plus grandes choses et peuvent aller plus loin et faire des... C'est-à-dire, parfois c'est toi-même qui bloque le plan de Dieu pour toi. Et Dieu, en fait, c'est un super bon pédagogue parce que, autre point que j'ai trouvé intéressant, cet épisode, il sera vraiment pas long, entre guillemets, parce que là, j'essaie vraiment de vous donner un peu les idées pour que vous puissiez me dire si vous voulez un épisode sur notre identité en Christ ou pas, et si oui, est-ce que vous voulez que je fasse avec des invités, hein, une invitée, enfin, bref. Donc, Dieu est un super bon pédagogue parce que le truc, c'est que si vous oubliez qui vous êtes, Dieu n'aura entre griffes, aucun problème à vous le rappeler s'il voit que vous êtes disposé à entendre ce qu'il a à vous dire. Aujourd'hui, à la messe, enfin hier, mais ce dimanche-là, à la messe, ce qui a été lu, c'est le texte de la transfiguration de Jésus, du coup. Donc le texte de la transfiguration, c'est Jésus sur une montagne, il part avec Pierre, Jacques et Jean. Donc on va dire... Il les incite à venir dans une certaine intimité avec lui pour prier. Et bon, on va se retrouver face à un Jésus dans une gloire tellement puissante qu'elle va contaminer ses vêtements. Il va devenir. Enfin, il va y avoir une grande lumière. Il y aura Moïse et Élie à côté de lui, etc. C'est une scène qui est assez particulière et assez extraordinaire. Et en fait, j'avais jamais fait attention au fait que dans cette scène de la transfiguration, Dieu va dire encore que c'est son fils bien-aimé et qu'en lui il a mis toute sa confiance et que, enfin, en tout cas il va dire encore que c'est son fils bien-aimé. Et quand j'ai entendu ça, après avoir passé une semaine à parler en fait de Matthieu 4, lorsque j'entends Dieu dire dans un autre chapitre, lui, celui-ci est mon fils que j'ai choisi, je me dis, mais tu l'as déjà dit. Sur le coup, je me suis dit, mais ça a été déjà dit, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ça a été déjà dit, mais c'est pas parce que ça a été déjà dit que Dieu a un problème à le répéter ou que Dieu ne va pas le répéter, sachant que la transfiguration, c'est un peu la période dans laquelle on commence à rentrer dans le schéma où tout le monde commence à comprendre et peu que il y a une passion du Christ qui arrive. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir venir bah, justement le partager avec vous, le fait que même si jamais, quand Dieu vous dit, enfin, quand vous comprendriez qui vous êtes en Christ, vous aurez Il y aura des moments où ce sera plus facile, des moments où ce sera plus difficile, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'aura jamais de problème à vous répéter qui vous êtes, parce que c'est qui vous êtes en fait. Ça va pas changer. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, dans cette scène de la transfiguration, ce qui se passe, c'est que c'est comme si c'est Jésus qui se révèle en tant que qui il est à Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire, c'est Jésus qui montre en fait qui montre sa réalité, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que la vraie transfiguration pour nous aussi, c'est accepter le réel de nos vies en mettant Jésus au centre et en laissant sa lumière éclairer nos vies. Et si je dois essayer de faire des parallèles, j'ai envie de vous dire, l'Eucharistie, par exemple, pour nous, les chrétiens catholiques, enfin, pour nous, les catholiques, c'est le pain transfiguré. C'est le même pain. C'est-à-dire, visuellement, c'est toujours la même chose, mais à l'intérieur, il est devenu autre parce que sa vraie nature s'est révélée. Et donc, je pense, de même, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut devenir nous-mêmes en Jésus? Comment est-ce qu'on peut révéler notre vraie nature, qui on est? Et je pense que ça pourrait vraiment nous aider à vivre cette semaine, le carême et la vie en général telle qu'elle est réellement. Sachant que, rappel, n'oubliez pas que Dieu, il veut faire une alliance avec nous à la vie, à la mort, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Si on doit rester sur les textes qui ont été lus à l'église, Genèse 15, Abraham. Moi, je vous invite vraiment à lire l'histoire d'Abraham parce que c'est très intéressant, surtout quand vous la lisez en tant que jeune adulte. Vous avez beaucoup plus de recul sur la situation et du coup, vous voyez que c'est beaucoup plus deep que ce que ça en a l'air. Mais en fait, dans ce chapitre 15 de la Genèse, on observe le projet de l'alliance de Dieu qui veut vraiment faire une alliance avec nous parce que. Il a un projet pour nous, mais il ne pourra jamais nous forcer à être dans ce projet-là si on n'y prend pas part nous-mêmes de plein gré. En tout cas, bref, c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est un épisode, mais plus énoncement des bases. Donc voilà, redites-moi ce que vous en pensez et surtout dites-moi les sujets dont vous voudriez qu'on parle pendant le carême. Histoire de pouvoir tous mieux vivre ce carême ensemble. Et aussi, le podcast propose des carnets de carême. Voilà, donc des carnets de carême pour vous aider. Des fiches de carême qui sont à 1 euro. Des calendriers de carême aussi. En tout cas, bref, on essaye de mettre à votre disposition les outils pour vous aider. Et vous encourager aussi à cheminer dans le carême. Là, le carême a commencé depuis 2 semaines. Et en général, quand on est au début du carême, on est très in. Parce qu'on se dit, ouais, ce carême-là, blablabla, je veux prendre des résolutions. C'est un peu comme les résolutions du Nouvel An. Au début, on est super chaud. Et après, bon. Et là, dans le cas d'espèce, ne pas vivre pleinement son carême, c'est arriver à la Pâque et vivre la Pâque comme si c'était un dimanche normal, alors que c'est vraiment. Tout le mystère de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de chrétien. Donc ce serait vraiment dommage de se laisser décourager ou de s'oublier de finalement ne pas réussir à être transformé pour cette Pâque. Donc sachez que si jamais c'est dur, demandez à Dieu de vous donner la force. Si jamais vous êtes relâché, ressaisissez-vous. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre de bonnes résolutions. Il n'est jamais trop tard pour... s'améliorer. Donc si vous êtes dans une période où on va dire c'est un peu plus difficile de vivre pleinement votre carême, vous vous asseyez, vous priez, vous lisez un peu la Bible, ça va remonter. Et du coup voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent temps de carême et que Dieu vous bénisse.